Il y a l'image.
Voilà. Voilà. À vous. Oui. Ça, je peux vous. Ça va ?
Oui. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Bien voilà. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir ici. C'est vrai que je suis quand même un petit peu le régional de l'étape, puisque, contrairement d'ailleurs à ce qui était dans le programme, la MCV n'a pas son siège social à Mons, mais à Charleroi, même si les bureaux d'exploitation sont à Mons. Donc, c'est quand même important à dire. Alors, simplement, on parlait du commerce urbain, donc je n'ai pas résisté à récupérer une caricature de Pierre Kroll, parce qu'en fait, quand on parle commerce urbain, on a déjà là deux grands phénomènes qui sont déjà évoqués, c'est-à-dire l'extension de l'habitat partout ailleurs que dans les zones urbaines, et également le développement de pôles commerciaux qui cherchent d'abord des lieux pour pouvoir s'implanter avant de se demander s'ils ont des clients autour d'eux. Donc ça veut dire qu'on arrive effectivement, comme M. Corain le disait, dans une logique de travail où par moment on se demande si le centre-ville est toujours au centre de quelque chose. Puisqu'on se dit, mais il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus d'activité économique, le logement devient rare. Et donc, effectivement, dans certains centres-villes, on se pose des questions. Et donc, simplement, pour vous permettre que les choses soient bien claires, et vous puissiez identifier le travail que représente la MCV, dont je suis le président et que je représente ici, ben, la MCV, c'est plusieurs types d'activités. C'est la gestion des partenariats privés-publics pour gérer des espaces urbains. Et donc, c'est quand même un élément important. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est l'élément qui semble le plus difficile à mettre en place, parvenir à travailler avec une certaine cohérence entre les partenaires privés et publics. Mais dedans, il y a aussi l'associatif, la culture, il y a énormément d'autres acteurs qui sont intégrés dans cela. Alors, on développe des outils de gestion de centre-ville, on coordonne les structures de gestion de centre-ville en région wallonne. Et alors, simplement, pour montrer qu'on peut de temps en temps passer du bon temps à l'extérieur aussi, je vous ai mis les endroits qui ont adopté le modèle de gestion de centre-ville tel qu'on l'a développé en région wallonne en 1997 et qui ont adopté aussi l'outil de gestion et les techniques de gestion que nous avons développé d'ailleurs au départ ici de Charleroi, puisque le concept est né ici. Je ne vais pas non plus vous mentir, vous devez savoir qu'il y a un réseau. Alors, c'est clair qu'au niveau du bureau, c'est plus facile d'envoyer des gens travailler à Nouméa qu'à Verviers. Je reconnais que souvent, quand c'est Verviers, il y a beaucoup de boulot sur la planche. Quand c'est Nouméa, ça se dégage plus facilement. Mais vous devez savoir quand même, si la région wallonne est à l'origine du concept de partenariat privé-public pour la gestion de centre-ville, nous n'avons plus aucune structure de gestion de centre-ville wallonne qui est labellisée niveau d'excellence. Alors que les Français en ont, les Japonais en ont, les Canadiens en ont, il y en a en Australie, mais nous, ici en région wallonne, on est niveau 1, on ne parvient visiblement pas à dépasser le niveau 1, ça on pourra éventuellement en discuter. Donc voilà, le boulot étant celui-là, vous devez savoir que ce réseau-là de gestion de centre-ville wallon, et donc la MCV, fait partie d'une structure de réflexion au niveau mondial. Et donc, si je regarde les différents partenaires que nous avons, ben, nous avons effectivement Japon, Australie, Argentine, Singapour, et nous avons une structure maintenant qui est formalisée, qui s'appelle TOSEMA, Town Center Management, où on échange du savoir-faire, on échange des méthodologies de travail, et on échange même maintenant du personnel qu'on puisse aller apprendre ce que les autres font, ce que les autres réussissent, et aussi ce que les autres ratent. Et donc, et quand vous regardez, eh bien, nous avons nos cellules locales qui sont là, puisque Sophie Collin, la gestionnaire centre-ville de Charleroi, est avec nous. Eh bien, Sophie, tu es là, toi, quelque part. Et donc, nous, on n'est pas beaucoup plus haut. Et donc, plus vous montez, plus vous avez le réseau international. Avec deux choses. À gauche, c'est toute la partie opérationnelle, et à droite, c'est toute la partie réflexion, échange de savoir-faire, etc. La gestion de centre-ville en région wallonne, parce qu'il faut aussi se positionner, eh bien, c'est 15 structures de gestion de centre-ville, dont une à l'heure actuelle qui est dormante, celle de Wavre. C'est un problème dont on peut reparler et qui est très politique. Et vous avez environ, à un certain moment, c'est-à-dire au moment du décret sur la gestion centre-ville, 227 personnes qui travaillent dans le cadre de partenariats privés-publics, ce qui fait globalement un budget de 4,2 millions par an pour la région wallonne. Et donc, ça, c'est la partie publique, la partie région wallonne, il y a effectivement la partie communale, la partie privée qui vient s'ajouter à tout ça. Donc voilà, comme ça vous avez un ordre de grandeur de ce qui se passe, et sans doute l'élément qui était le plus exporté au départ de Charleroi, et comme on y est, je me permets de le dire, c'est une espèce de cocorico Carolo, ce sont les stewards urbains. Les stewards urbains, même si au départ, c'était une petite expérience qui a été faite pendant une semaine en décembre à la Ville Haute à Charleroi, et c'est devenu maintenant un travail qui a plusieurs facettes. Il y a énormément de facettes, beaucoup de missions, des missions qui ne sont pas toujours bien perçues et des missions qui sont clairement identifiées. C'est clair que là, on identifie bien le boulot. Je vous rassure, pour ceux qui l'auraient reconnu, Benabar n'est pas steward urbain à Liège. Il a bénéficié du soutien des stewards pour ne pas avoir froid dans le centre-ville de Liège. Mais par contre, les stewards urbains ont été adoptés pratiquement partout. Et donc, on a les stewards urbains à Papété, à Saint-Denis-de-la-Réunion. Et je ne cacherai pas que j'ai une petite faiblesse pour les stewardines du centre-ville de Tokyo. Mais je compte sur vous pour ne pas le répéter. On ne sait jamais, ça peut valoir des ennuis. Voilà. Alors maintenant, on arrive quand même dans quelque chose d'un peu plus technique au niveau du boulot. Le dispositif de gestion de centre-ville en partenariat privé-public, sur lequel on s'appuie pour essayer de travailler, est le seul dispositif wallon qui répond aux critères de bonne gouvernance qui ont été donnés par l'Union européenne. Et donc, il n'y a aucun autre dispositif urbain ou de gestion territoriale qui réponde aux différents critères de la bonne gouvernance urbaine. Alors, dans le cadre de Charleroi Academy, je pense qu'il est important de le signaler. C'est un travail transdisciplinaire, on a une coordination verticale, je viens de vous le montrer, au niveau international, on a une coordination transversale au niveau local, au niveau régional, au niveau fédéral. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas les passer tous en revue, simplement attirer votre attention sur quelque chose qui est assez étonnant et qui me pose le plus de problèmes, qui nous pose le plus de problèmes ici en Belgique. J'ai bien dit en Belgique, pas uniquement en Wallonie, c'est que dans la bonne gouvernance urbaine, il faut valoriser les outils existants, les améliorer et ne pas continuellement supprimer ce qui existe pour refaire la même chose autrement. Eh bien, effectivement, pour nous, le vrai gros problème se situe là. On sent régulièrement le souci de dire on va changer, on va faire quelque part la même chose, mais autrement. Et donc, mais c'est vrai pour nous, c'est vrai pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais donc, je pense que ça, c'est quand même important. Nous avons un monitoring, on répond à tous les points. Enfin, c'est logique, puisque la structure de gestion de centre-ville a été développée sur cette base-là. Mais donc, c'est le seul outil qui nous permet de nous positionner directement en disant, voilà, nous, on respecte tous les critères de bonne gouvernance urbaine. Et donc, je pense qu'il faut déjà bien en être conscient. Et puis, on arrive au commerce urbain. Alors là, effectivement, quand on parle de commerce urbain, ça existe et ça n'existe pas, le commerce urbain. Alors le commerce, d'abord, si c'est dans l'urbain, il y a toute la ville autour, il y a le logement, il y a la mobilité, enfin, vous voyez toutes les fonctions et toutes les composantes de la ville. On aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler rapidement. Mais ceci, c'est sans doute un des deux éléments majeurs du commerce urbain. Quand on parle de commerce, alors urbain ou pas, mais quand on parle de commerce, il y a d'abord les gens, les acteurs, les intérêts, ce qui fait bouger. Et donc, il y a deux grosses parties. Et les deux parties se travaillent différemment. Ce sont deux mondes qui s'ignorent. Dans le meilleur des cas, ils s'ignorent. Quand ils ne s'ignorent pas, ça fait de la casse. Alors, qu'est-ce que c'est ? La première partie, c'est ceci. Ceci, c'est un graphique qui vient de C.B. Richard Ellis. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le marché du retail. Alors, qu'est-ce que c'est le marché du retail ? Eh bien, ici, dans le commerce, ce n'est pas le commerce qui a de l'importance. Le commerce est un sous-jacent à un produit financier. Ce sont les murs qui ont de l'importance. Et tous les acteurs que l'on trouve là-dedans, ce sont les murs. C'est le loyer des murs qui a de l'importance. Que ce soit ce commerce-ci ou un autre commerce, importe peu. Et on en parlait il y a 5 minutes. Si c'est celui-ci et qu'il meurt, ce n'est pas grave, on en trouvera un autre pour mettre à l'intérieur. Et donc, quand vous avez ceci, ce graphique-là vous permet de voir dans votre ville, dans votre centre-ville, et ici, dans le cas de Charleroi, c'est clair qu'on a fait une démarche qui était essentiellement lié au marché du retail. Et maintenant, il va falloir s'intéresser au commerce hors retail. Et donc ici, systématiquement, le commerce est un sous-jacent. Alors regardez bien pour comprendre le graphique, et on va situer évidemment les villes wallonnes et notamment Charleroi dessus. Donc premier élément, les centres-villes. Alors les centres-villes, ce sont les carrés qui apparaissent en vert foncé, vert wagon, m'a-t-on dit, pour ne pas que je me trompe. Alors regardez, les niveaux de loyers, ce qui vous permet, ceux qui sont familiarisés ne vont pas s'étonner, les autres, ce n'est pas toujours facile. Enfin, niveau de loyer, vous êtes ici, le centre-ville d'Anvers, le maire, le centre-ville de Bruxelles, le rue Neuve, vous êtes aux alentours de 2000 euros du mètre carré par an. Un mètre carré, 2000 euros par an, vous voyez que le niveau de loyer que ça vous fait si vous occupez un bien de 120 mètres carrés. Et donc voilà. Ça, ce sont des loyers en euros du mètre carré par an. Et vous voyez tout de suite que les centres-villes, ici, quand on est dans les meilleures localisations commerciales du marché du retail, on est à des milieux de 1500, 1700, entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Ça, c'est ce qu'on appelle le triple A. Et le triple A, là-bas, on n'a aucun centre-ville wallon qui se trouve dans le triple A. Donc parmi les meilleures zones commerciales, alors on reviendra peut-être éventuellement sur ce qui fait une bonne zone commerciale, mais nous n'avons aucun centre-ville wallon qui se trouve là. Et donc voilà, premier élément, c'est ça. Deuxième type de ville, de centre-ville, ce sont celles que l'on classe en secondaire, c'est-à-dire qu'elles ne parviennent pas à atteindre... le niveau du triple A. Et là, on est entre à peu près 700-800 euros du mètre carré et 1250-1300 euros du mètre carré. Et là, on voit que nous avons le centre-ville de Liège qui peine à entrer dans le triple A parce qu'effectivement, il y a un peu trop de cellules vides, l'état des bâtiments n'est pas bon, il n'y a pas assez de fréquentation pour pouvoir entrer dans cette catégorie-là. Mais Liège pourrait relativement aisément, avec de l'investissement, Liège pourrait relativement aisément revenir dans le triple A. Vous voyez que la rue de Lange fait partie également, rue de Lange à Namur fait partie des zones, des villes secondaires dans le retail. Et donc, voilà. En vert clair, vous me permettrez de ne pas prendre trop de temps là-dessus. Ce sont les shopping centers, les centres commerciaux intégrés. Et là, deux grandes catégories de centres commerciaux, des centres commerciaux de périphérie, qui sont très largement majoritaires, et ponctuellement, un ou deux centres commerciaux de centre-ville, avec à boire et à manger, puisqu'il y a des centres commerciaux de centre-ville qui sont des centres commerciaux dans les centres-villes, des centres commerciaux qui sont des centres commerciaux de centre-ville. Et donc, une grande différence, mais c'est un combat permanent, parce que par définition, le renard a toujours envie de croquer la poule, et donc, quand vous avez un centre commercial de centre-ville, il faut toujours être attentif à ce qu'il ne devienne pas un centre commercial dans le centre-ville. Et donc, ça, c'est un boulot, je pense, où ici, on est très sensibilisé à ça, et on y fait très attention. Et maintenant, Charleroi. Charleroi se trouve dans ce qu'on appelle les zones tertiaires. Alors, pour le marché du retail, les zones tertiaires sont des endroits qui risquent très fort de basculer de l'autre côté de l'axe des ordonnées. Et si vous êtes de l'autre côté des axes des ordonnées, vous arrivez dans le marché hors retail, où les murs ont moins d'importance parce que les loyers sont moins importants, les rendements sont plus faibles. Et là-bas, le commerce prime sur la rentabilité des murs. Et donc, quand on est ici et qu'on est investisseur, il y a un choix à faire. Est-ce que la ville va plutôt reglisser vers le secondaire ou est-ce que la ville va glisser de ce côté-là? Et donc, je pense que c'est un secret de Polichinelle. Charleroi, avec l'arrivée de Rive-Gauche, c'était une façon de repositionner Charleroi dans les villes secondaires, créer une masse critique commerciale susceptible de repositionner Charleroi, en tout cas le centre-ville de Charleroi, sur la carte du commerce. Et donc, le commerce urbain se repositionne par rapport au commerce de périphérie. Maintenant, si je prends le cas de Mons, de la rue piétonne, rue de la Chaussée, Grand Rue à Mons, on sait qu'il y a déjà pas mal d'investisseurs qui ont fait leur choix et qui considèrent que les rues piétonnes de Mons basculent. Et donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de vendre le plus vite possible, au meilleur prix, les bâtiments qui se trouvent dans cette rue-là. Et si possible, à un prix de retail. Donc, et vous voyez pourquoi je vous dis ça, parce que pour les pouvoirs publics, c'est extrêmement difficile d'agir dans ce type de situation. Soit vous dites, je veux agir maintenant, je veux y aller, parce que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose pour essayer de redynamiser les rues piétonnes de Mons. Si j'y vais maintenant, on va me vendre, si je veux prendre la main sur de l'immobilier, on va me vendre les biens au prix du retail. Si j'attends un an ou deux et que je passe de l'autre côté, évidemment, je ne paierai plus ces prix-là. Mais est-ce que les pouvoirs publics peuvent se permettre de dire j'attends un an ou deux? Et donc, vous voyez que c'est toujours la difficulté. Quand on est face à ça, il y a le temps de l'investisseur, il y a le temps du commerçant, il y a le temps du politique. Et effectivement, en immobilier pur, on aurait sans doute intérêt à attendre, ne pas acheter maintenant. Alors que dans le politique, est-ce qu'on peut se permettre de laisser une rue de centre-ville se détériorer à ce point-là? Ce n'est pas évident. Donc je vous fais cadeau des retail parks style City Nord, etc., qui sont là, où on a des niveaux de loyer de 250 à 250 euros du mètre carré. Et après, on passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous avons des espaces qui ne sont plus, même si ici, vous avez des espaces qui sont toujours dans le marché du retail, ben, la plupart du temps, on arrive dans des centres-villes où on n'est plus dans la même logique. On n'a pas les mêmes interlocuteurs en face de nous, et donc c'est deux mondes qui sont totalement différents. Ils ne pensent pas de la même façon, on ne travaille pas de la même façon. Et donc, on voit que dans les centres-villes wallons, ici j'ai récupéré les centres-villes wallons, eh bien, il y a des villes qui ont gardé un niveau. On est en 2015, donc l'impact de ce qui s'est fait à Charleroi n'apparaît pas encore. Et donc, voilà, on a toute une série de villes qui sont en position intermédiaire et on ne sait pas très bien si elles peuvent évoluer vers une activité de type, entre guillemets, retail. Et de l'autre côté, des villes qui ont le centre-ville qui glisse vraiment vers de la proximité. Et donc, quand on dit la proximité, ça veut dire que voilà, les gens qui viennent, ils viennent la plupart du temps à pied faire leurs achats. Si je prends un centre-ville comme Marchand-Famenne, l'activité commerciale a migré. Alors, ils ont fait un très beau centre-ville, très, très bien rénové, de la qualité, mais il n'y a plus pratiquement d'activité commerciale, et donc on est dans des logiques de proximité. Alors, simplement pour vous donner les éléments, si je prends l'évolution de la fréquentation moyenne des centres-villes, on a une chute de 16,5% en 8 ans, et donc... Alors, ça, c'est jusque-là, tout le monde est d'accord à dire, bah ouais, c'est logique, les centres-villes vont moins bien. Si je prends les centres... Attendez, je suis désolé, je vais vous le remettre. C'est assez remis. Et donc, on a une chute de 16,5%. Si vous voulez, je vous donnerai les chiffres, ce n'est pas du tout confidentiel. Chute de 16,5% en 8 ans. Et si je prends les shopping centers, les centres commerciaux de périphérie, chute de 15% de fréquentation en 8 ans. Et donc, vous allez dire, il devient fou. Tout le monde perd 15% de fréquentation en 8 ans. Où vont les gens? Eh bien, les gens, effectivement, ils sont toujours à peu près aussi nombreux, mais ils se dispersent parce qu'il y a beaucoup plus de pôles commerciaux qu'avant. Et donc, il y a beaucoup plus d'endroits où aller. Et donc, inévitablement, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas un pôle qui gagne et les autres qui perdent. Globalement, on voit qu'il y a un tassement de la fréquentation pratiquement partout, ce qui fait que ça rend la rentabilité plus difficile. S'il y a un grand vainqueur et un mort, ben, le mort, on n'en parle plus, et le vainqueur tire les marrons du feu. Ici, on sent qu'il y a une diminution à peu près partout, et donc la pression se fait sur l'ensemble des pôles. Alors, ceci vient de Devimo, donc les sources sont systématiquement indiquées. Et voilà, Devimo vient de connaître un moment un peu difficile dans sa vie. Mais Devimo et l'association belgo-luxembourgeoise des centres commerciaux publient ces chiffres très régulièrement. Et donc, ça vient des gestionnaires de centres commerciaux. Alors, que se passe-t-il dans les centres-villes et que se passe-t-il dans le monde hors retail? Et ici, j'arrive sur le commerce, où la fonction première d'un commerçant, c'est de faire tourner le commerce et de gagner de l'argent, gagner sa vie. Et les murs, ça peut être son investissement, son patrimoine. Mais donc, l'activité commerciale doit permettre de faire vivre la famille, de faire bouillir la marmite. Et donc, voilà, devant quoi sommes-nous quand on parle du commerce hors retail? Eh bien, effectivement, devant deux types d'acteurs différents qui sont... de façon récurrente en front office, que l'on a devant nous de façon récurrente. Les premiers, Ici, je vais me faire un tas de potes. Hein. Vous allez voir, ça va être terrible. Les premiers sont les pouvoirs publics. Le premier réflexe des pouvoirs publics, alors je vous dis ça, ce n'est pas un phénomène belge, ce n'est pas un phénomène wallon, c'est un phénomène mondial. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, alors je vois des élus ici, un élu japonais ou un élu américain ou un élu canadien ou un élu australien fonctionne dans sa tête de la même façon qu'un élu belge ou qu'un élu wallon. Un commerçant, quel qu'il soit, où qu'il soit, malgré toutes les différences culturelles du monde, il a toujours le même type de réflexe. C'est assez étonnant que, sans interprète, on parvient parfois à comprendre ce que dit un commerçant japonais, ou en tout cas un représentant de commerçant japonais, parce qu'on a tellement entendu le type de réflexion que c'est toujours à peu près la même chose. Et donc, les pouvoirs publics, le premier réflexe traditionnel, c'est dire, il y a un problème, on va commander une étude. Je ne vais pas cracher dans la soupe, je trouve ça très intéressant de commander des études, mais on va commander une étude. Et donc, on fait une étude et ça serait génial si l'étude était en fait un levier pour agir derrière. Ce serait excellent. Malheureusement, on est souvent confronté au fait que l'étude se suffit à elle-même. Et donc, j'ai fait une étude, donc vous voyez que j'ai fait quelque chose pour le bien du centre-ville. Et on retrouve souvent le même réflexe, c'est on fait un comité, on présente l'étude, on représente l'étude, et quand l'étude est terminée, alors déjà, une ville récemment, l'étude, et puis on a fini l'étude, on dit voilà, c'est terminé, vous avez des fiches actions, ah bon, et on fait quoi maintenant? Je dis maintenant, c'est vous qui devez prendre les choses en main, vous devez décider ce que vous allez faire, oui, bon. Et maintenant, on fait quoi alors? Et donc, à un moment, ça devient difficile parce qu'effectivement, l'étude suffit. On dit, voilà, on a fait une étude, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Et je veux dire, l'étude suffit en tant que telle pour dire, on a fait quelque chose. Alors, de l'autre côté, en face, je veux dire, on a les associations de commerçants. Et les associations de commerçants, je veux dire, la photo que j'ai prise là n'est pas une photo qui date de Mathusalem. Les associations de commerçants, leur réflexe, c'est il faut de l'animation commerciale. Il faut faire de l'animation commerciale. Et on se retrouve avec des animations commerciales qui ont montré leur efficacité depuis 150 ans. Et donc, quand vous voyez cette photo-là, avec des gens qui s'investissent, qui passent du temps de leur commerce, qui y croient, qui ont fait des efforts avec le chapeau de Père Noël, qui ont fait des flyers. Et donc, est-ce que ça peut réellement suffire pour contrer le développement commercial de 35 000 mètres carrés en périphérie d'une ville? Est-ce que c'est comme ça que l'on peut vraiment espérer générer un flux de consommateurs qui ne sont pas déjà concernés par les commerces? Autrement dit, en gros, est-ce que, aussi bien d'un côté que l'autre, parce que ceux-là reprochent à ceux-là leur manque de dynamisme, et ceux-là reprochent à ceux-là leur manque de dynamisme. À un certain moment, plutôt que de se reprocher, il faut sans doute travailler ensemble et voir ce qu'on peut faire, d'où l'intérêt de travailler en partenariat. Mais j'insiste bien que le problème des animations, dans certaines villes, on met un argent fou pour faire des animations commerciales. Le jour de l'animation, dans le meilleur des cas, il y a une fréquentation en augmentation. Et ici, je peux prendre l'exemple d'une ville française qui est Neuville-sur-Saône, où ils ont installé des compteurs piétons et ils se sont rendus compte que leurs animations commerciales n'avaient aucun impact sur les flux piétons des rues de centre-ville. Il a fallu trois années successives où on s'est dit, vous savez, il n'y a pas de fréquentation en plus. Même pire, dans un des cas, il y avait une fréquentation en moins. Et au bout de trois ans, ils se sont dit, oui, on va peut-être arrêter de faire notre braderie parce qu'effectivement, ça ne génère plus d'attractivité. Et donc, mais c'est un processus. Et donc, voilà. Maintenant, est-ce que ce sont ces gens-là, est-ce que ce sont ces commerçants-là qui vont être les nouveaux commerçants du digital? On dit que le commerce doit être sur le web. Il faut digitaliser le commerce. Il faut vivre avec son temps. Et M. Corain l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, les logiques changent, les paradigmes changent. Et donc, il faut s'adapter. Est-ce que, sincèrement, quand on fait un plan Wallonie Commerce, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on dit qu'il faut digitaliser le commerce. Est-ce que ce sont eux qui doivent devenir les acteurs principaux du digital ou est-ce qu'il faut leur donner des outils pour pouvoir devenir des acteurs du digital? Donc poser la question, c'est déjà y répondre un peu. Et donc, tout ça pour arriver, je reviens 30 secondes là-dessus, j'ai parlé de Wallonie Commerce, nous on voit monter en flèche les nouveaux commerçants. Et les nouveaux commerçants, c'est pas un cadeau, ils sont hyper dynamiques, mais c'est pas un cadeau par rapport à tous les vieux réflexes que nous avons. Les nouveaux commerçants ne veulent pas signer un bail commercial. Et donc, nous avons quantité de jeunes et de moins jeunes qui lancent leur activité commerciale. Et c'est impensable pour eux de se mettre un boulet au pied, de signer pour 9 ans, de signer pour 18 ans. Ils ne veulent pas signer un bail commercial. Deuxième caractéristique, ils ne veulent pas rencontrer un banquier. Ils ne veulent pas signer un emprunt chez un banquier parce qu'ils ne veulent pas s'engager sur du long terme. Et je reviens, je reprends ce que M. Corain disait tout à l'heure. Qui maintenant va se dire, ben, ça va, je m'engage pour 20 ans, c'est parti. C'est terminé ça. Tous nos interlocuteurs, et on en voit pratiquement partout, et c'est la même chose partout, les jeunes candidats commerçants, les jeunes commerçants ne veulent plus se mettre des boulets au pied pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je sais ce que je fais maintenant, ça fonctionne, demain je peux faire autre chose. Et donc on a des gens qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, très stables, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, mais par contre, ils ont besoin, et ils ont besoin du magasin physique. La plupart ont développé leur activité et développent leur activité sur Internet, c'est-à-dire que c'était le e-commerce, c'est l'Internet mobile. Et donc, vous avez des gens, bah, pour ceux qui connaissent Minoudry, le slip français, tous ces gens-là, c'est 30 000, 40 000, 50 000 clients, mais les clients sont partout. Les clients sont partout à la surface de la planète, et lorsqu'ils arrivent quelque part, on fait un événement avec eux, c'est-à-dire, ils ont leur réseau. Alors, ça les intéresse d'être sur le terrain, non pas pour avoir un magasin physique et faire de la vente, c'est que lorsqu'on est sur le... Je viens d'en voir un qui vient de regarder Minoudry, attention, je vous ai vu. Ce que je veux vous dire, c'est que ces gens-là vous apportent une dynamique dans les centres-villes qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Quand on fait un événement, et c'est le cas dans différentes villes françaises où on a développé les premiers événements avec eux, quand on fait une animation avec eux, ils ont leur réseau. Et eux, l'idée, c'est que des gens viennent, voient leur magasin physique et ensuite travaillent avec eux sur leur site Internet, sur Instagram, sur Pinterest, sur tous les réseaux sur lesquels ils travaillent. Donc, le magasin physique est une logique de dynamique. Alors, c'est vrai pour 3 semaines, c'est vrai pour 1 mois, c'est vrai pour 2 mois, mais il n'est pas question de rester 1 an, 2 ans, 3 ans au même endroit avec une zone de chalandise comme on faisait il y a 5 ou 10 ans. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est être 3 semaines ici à Charleroi, 3 semaines à Liège, 3 semaines à Anvers, 3 semaines à Paris, 1 semaine à Amsterdam. Et donc, il faut tourner. Et plus vous tournez, plus vos followers augmentent et plus votre masse critique augmente. Et donc, c'est ça le jeu. Donc, ce qui veut dire que pour nous, si on regarde les types d'activités commerciales qui ont le vent en poupe et qui sont en train de se développer, eh bien, effectivement, alors quand on dit les pop-up stores, les magasins éphémères, comprenons-nous bien, il y a différents types de logiques de magasins éphémères. Vous avez des magasins éphémères qui sont perçus comme étant des solderies. On achète des containers en counter trading et on vient écouler ça dans les magasins. Le magasin éphémère qui nous intéresse en centre-ville, il est de deux natures. C'est le magasin éphémère des gens qui travaillent, des digitaux, des commerçants digitaux, qui sont sur le web et on les amène dans les magasins physiques. Mais vous ne les amènerez pas pour 6 ans. Vous allez les amener pour 3 semaines et peut-être 3 fois 3 semaines sur l'année. Et donc, vous avez une masse critique qui fait qu'il faut qu'il y ait en permanence ce type de magasin. Le deuxième type de magasin qui nous intéresse, les magasins éphémères, ce sont des gens qui, eux, souhaitent ouvrir un magasin physique classique, mais qui veulent tester leur concept avant. Ils veulent tester pour voir si ça marche, pour voir s'ils ne prennent pas trop de risques, etc. Et je ne vous cacherai pas que la première catégorie est beaucoup plus nombreuse que la deuxième. J'ajouterai là-dedans le magasin tel que vous l'avez développé ici, que Sophie l'a développé à Charleroi, le magasin partagé, où effectivement on peut mettre plusieurs personnes dans le même point de vente en le gérant à leur place. Et donc, ça aussi, c'est clairement une dynamique qui a le vent en poupe. Alors, les magasins éphémères, l'Internet mobile, et donc le commerce avec votre smartphone dans votre poche. Là, effectivement, pour nous, ça ne va pas nous aider. Je veux dire, le e-commerce, et donc, vous avez comme ça des nouveaux concepts commerciaux et, inévitablement, en ricochet, les magasins de proximité. Le magasin de proximité, maintenant, toutes les chaînes en développent, et c'est ça qui est en... Alors, magasin de proximité, pour le centre-ville, ce n'est pas l'idée du siècle, parce qu'on en met partout. Partout où on peut, il faut un réseau. Si vous faites des petits magasins de proximité, il faut en mettre beaucoup. Vous les livrez quand même avec des semi-remorques. Et donc, ce qui veut dire que, voilà, ça, c'est ce qui se développe avec les tout gros magasins, et là, on les met que dans des niveaux de retail. Et puis, vous avez les autres concepts auxquels on est habitué, mais qui, eux, sont déjà dans la phase descendante. Et donc, oui, tout à l'heure, vous l'avez dit, nous sommes effectivement dans un changement. C'est vraiment un changement structurel. Alors, on le sent arriver depuis pas mal de temps, mais maintenant, on sent que les choses sont vraiment là. Et je termine simplement par ceci. Pour essayer de rencontrer cette demande colossale de gens qui sont intéressés de venir pendant un temps court dans les centres-villes, mais qui n'y viennent pas pour toute une série de raisons. Alors, un, les locaux n'étaient pas facilement disponibles. On essaye de leur proposer, via une plateforme, des locaux qui sont accessibles, qui sont louables pour un jour jusqu'à un an. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que le propriétaire doit être sécurisé et le locataire temporaire doit être sécurisé aussi. Et donc, ça veut dire que nous devons, en Wallonie, développer des beaux commerciaux de nouvelle génération, des beaux commerciaux de courte durée. C'est inévitable. Pour cette population-là, et j'insiste bien, aussi bien le propriétaire, parce qu'il faut sécuriser aussi le propriétaire dans ce type d'action, et plus vous avez cette dynamique qui se crée, et plus vous pouvez générer de la sécurité pour une occupation permanente du bien. Donc voilà, j'ai fait le tour. Il y a encore plein de choses à faire, mais comme ça, vous avez vu ce qu'on faisait. Merci.
Merci à vous. Je propose d'avoir le débat après les deux interventions, mais je donne un peu le temps, s'il y a des questions de clarification ou d'opinion sur ceci, et qui peut faire le pont de parler sur Bruxelles. Oui. Attends, le micro arrive comme ça.
Excusez-moi. Apparemment, moi, je crois que pour le petit commerce de centre-ville, le débouché par rapport au grand commerce, c'est surtout la qualité du service. Et ça, vous n'en avez pas tellement parlé, je crois.
Oui, non, vous avez tout à fait raison. Mais oui, 10 milliards de fois raison avec vous. Et si je reviens sur les magasins éphémères, mais les autres activités aussi, hein, la seule différence se trouve là. Parce que la plupart des magasins éphémères, et ça, à la limite, je peux vous en donner ou vous envoyer sur les sites où ils sont tous. J'en ai cité deux. Leur caractéristique, c'est que, un, sont toujours des produits de haut niveau de qualité, des niveaux de prix de haut niveau de qualité, et effectivement, la clientèle est différente. C'est une autre clientèle. Mais oui, vous avez 10 milliards de fois raison. C'est vrai qu'il aurait fallu prendre son temps pour tout voir, mais c'est le seul. Vendre moins cher dans un petit commerce, c'est fini.
Oui, monsieur ?
Oui, bonjour. Vous ne parlez pas des petits artisans, réparateurs de smartphones, petits bijoutiers, des choses comme ça. Vous les considérez dans l'activité commerciale pour le centre-ville ? Parce que je pense qu'ils peuvent avoir une place aussi.
Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, d'ailleurs, on a toute une nouvelle génération, style PC Genius et tout ça, qui arrive dans les centres-villes. Oui, tout à fait. Mais tout ça, c'est pas, on ne recherche pas des prix bas, c'est du service. Et on n'est pas dans la recherche systématiquement du prix le plus bas, le plus bas, le plus bas. Mais oui, tout à fait. Le problème, c'est pour répondre à vos deux questions, c'est que M. Corain aurait dû me donner 1h30, 2h pour que je puisse faire tous les tout. Mais vous avez raison, tous les deux. Et effectivement, oui, tous les services, tout ce type de services. Et quand on voit l'évolution de PC Genius, je prends celui-là parce qu'il se développe de tous les côtés, oui, et il répond à une attente, on le voit. Mais par contre, le gros souci de ce type de produit, c'est qu'il a besoin absolument d'avoir une masse critique autour de lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être trop isolé dans des villes trop petites.
Monsieur, ici ? Ici, devant.
Euh, Si aujourd'hui un commerçant s'adresse à un propriétaire et demande une occupation précaire, quel type de bail est-il possible, légalement possible, de signer aujourd'hui, puisque le bail d'occupation précaire n'existe pas?
Oui, le bail commercial de courte durée n'existe pas encore. Il va bientôt passer en deuxième lecture, donc il arrive. Par contre, maintenant, nous avons effectivement des conventions d'occupation précaire, et donc dans le cadre de... Il n'est plus là, mais ou alors vous me le dites et je vous donnerai le contact. On a dû, parce qu'on n'a pas le choix, en attendant que le bail de courte durée arrive, on a essayé de bétonner des mises à disposition à titre précaire, de façon à ce qu'on ne puisse pas les requalifier en bail commercial. Et oui, ça, vous allez sur Urban Retail et vous allez dans propriétaire et vous allez voir les différents types de baux qui sont les types de mises à disposition qui sont. L'idéal, c'est quand même le bail de courte durée. Hein. On ne sait jamais ce qu'un juge peut décider. Et donc, si on vous requalifie la mise à disposition en bail, effectivement, vous êtes coincé. Mais par contre, je pense que c'est une question de moi. Hein, nous avons des élus avec nous, ils pourront nous dire quand le bail de courte durée va arriver. Merci.
Moi, j'aimerais vous poser deux questions avant de passer au suivant.
Je reviendrai tantôt fin de débat pour poser d'autres questions, parce que c'est très passionnant. Mais je voudrais revenir quand même juste un petit point sur le problème bancaire, en donnant peut-être un éclairage. Moi, je pense qu'à côté, effectivement, de la réforme des baux, qui est vraiment très importante hein, aujourd'hui dans le monde commercial tel qu'il se définit, mais il faudrait aussi voir comment accompagner le risque de l'entrepreneur, parce que ce soit les pouvoirs publics et les élus ne se rendent peut-être pas bien compte comment fonctionne le système bancaire. Et c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, si quelqu'un s'engage dans un crédit bancaire de type professionnel, il va en fait être pieds et poings liés avec la banque, parce que la banque va prendre l'ensemble des garanties, gages sur le fonds de commerce, etc. Si, pour une raison ou pour une autre, la banque décide de ne plus accompagner l'entrepreneur, en fait, l'entrepreneur va vouloir quitter sa banque. Mais il va être soumis, à ce moment-là, à ce qu'on appelle la règle du funding loss. Hein, ça, on peut tantôt expliciter ou en parler. C'est-à-dire que la banque va recalculer en disant, écoutez, ok, vous nous quittez, mais nous allons recalculer la perte que vous générez en nous quittant. Et ce calcul fait que dans la plupart des cas, il est impossible pour l'entrepreneur de se désolidariser de la banque avec laquelle il s'est engagé, ce qui veut dire qu'il est pieds et poings liés et qu'à un moment donné, la banque peut devenir elle-même l'obstacle à son développement. Donc moi, je pense que, il y a en crédit hypothécaire privé une loi qui régit. Je pense qu'il faudrait, ça c'est le monde politique, il faudrait à un moment donné réglementer, évidemment c'est un grand débat, mais il faut permettre à l'entrepreneur de pouvoir disposer de capitaux sans pour ça être pieds et poings liés, parce que c'est ça qui freine le jeune entrepreneur. Voilà, c'était juste un point, mais je pense que c'est très important. Voilà.
Réaction ?
Oui, je vais prendre parce que je ne connais pas, donc je viendrai vous embêter tout à l'heure. Ceci dit, un autre problème des jeunes entrepreneurs, le système, beaucoup se réfugient sur le système SMART, mais ils se retrouvent très vite aussi coincés dans leur développement, leur investissement. Enfin, bon, ça, c'est...
Bon, moi, j'ai deux questions, disons, de niveau plus général pour nous aider à réfléchir à un projet possible pour Charleroi. D'abord, c'est la question du centre, polycentre, proximité. C'est-à-dire, quand on voit les schémas, on voit beaucoup comme un centre. Naturellement, on va attendre Bruxelles là tantôt aussi, c'est une planification polycentrique et polycentrique à des niveaux différents. Donc le centre, il me paraît clair qu'en Wallonie, par exemple, il y a trop de centres. Et donc si Charleroi veut augmenter dans le ranking, elle doit prendre plus de centralité. Mais alors la question se pose aussi à l'intérieur, est-ce que c'est un centre ou deux centres, comment vous voyez la question, disons, de comment vous positionnez le centre et comment les autorités publiques ou la vision ou la planification doivent envisager cette question.
Alors, c'est passé très vite, mais effectivement, on prend en compte différents centres. C'est-à-dire que si je prends le cas de Charleroi, c'est-à-dire, ici, on a repositionné le centre-ville de Charleroi dans le marché du retail. Par contre, le commerce hors retail, lui, n'est pas encore repositionné. Et donc, ici, il y a un potentiel d'attractivité qui fait qu'on peut avoir une attractivité de commerce urbain, je veux dire, régional. Mais effectivement, si vous allez à Gilly, vous allez à Jumet, vous allez à Mont-sur-Marchienne, il y a des noyaux commerciaux qui sont de proximité, mais où certains sont excessivement dynamiques. Ils sont tellement dynamiques qu'ils dépassent une logique de proximité. Et donc, il y a un centre-ville qui est le niveau attractivité régionale, un espace d'attractivité commerciale régionale, et puis il y a des pôles de proximité dans lesquels on travaille. Parce qu'on travaille aussi sur des zones rurales, semi-rurales ou même rurales profondes.
Donc, vous considérez donc, que Charleroi a un centre.
Pardon ?
Vous considérez que Charleroi a un centre dans cette approche où...
commercial ou urbain?
Mais vous êtes dans l'urbain quand même.
Oui, la structure urbaine, non, il n'y a pas un centre. Non. On a un noyau de centralité, mais vous avez énormément de ces polycentriques.
D'accord. Ici. Donc ça, c'est quand même une question à, si on veut discuter.
Ça, c'est pour l'année prochaine. Et
ma deuxième question, c'est, bon, donc troisième catégorie, si vous voulez augmenter de catégorie, hein, ça semble dans la logique du discours. Et si on entend tout ce qui est en train de changer, ce que vous nous racontez aussi, est-ce que, donc on change de la logique immobilière, la rente immobilière qui semble être plus important que ce qui se vend exactement, tandis que naturellement l'attractivité urbaine est faite aussi de spécificités. Parce que je pense qu'un des éléments, c'est que ces rues commerçantes avec les mêmes enseignes, avec les mêmes... La même chose n'est pas nécessairement urban attractor, puisqu'on peut le trouver peut-être plus proche. Pourquoi venir à Charleroi? Et donc, est-ce que, disons, la politique de redéveloppement doit passer par ces voies classiques, en fait, de rente immobilière, grande enseigne? Est-ce que c'est cela qui ne fait pas partie du problème et pas nécessairement de la solution? Comprenez?
C'est
pour pas sauter une étape pour vraiment être...
C'est toute la vision de la reconstruction urbaine. C'est-à-dire que le retail est amené à un centre commercial comme on l'a fait ici. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose pour générer énormément de flux. Et donc, on va vers ce qu'on appelle un centre principal, une attractivité suprarégionale. Maintenant, si vous regardez ce qui se fait dans pas mal de zones urbaines anglaises, industriel ou ex-industriel, mais avec un vrai développement économique, on voit qu'on est en train petit à petit, et je dis bien petit à petit, de recréer de nouvelles polarités commerciales et de logement, mais des nouvelles polarités qui n'ont pas pour objectif d'attirer les gens de loin. Mais donc, ça pose un autre problème. C'est le problème... Donc, je suis désolé, parce que si je dis, je ne vais pas développer tout concentré dans un centre-ville, on pourrait le faire et dire je ne veux pas essayer de créer une masse critique commerciale qui fait qu'un maximum de personnes viennent dans ma zone urbaine. C'est jouable, mais alors vous devez développer les voies de circulation pour irradier sur l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pratiquement plus organiser les transports en commun si vous n'avez pas une fonction de centralité, des fonctions de centralité. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous mettez un centre commercial de ce type-ci dans un centre-ville, il y a le train, il y a le métro, enfin le pré-métro. Donc, vous avez les moyens d'y arriver. Si maintenant, vous mettez des machines de guerre comme ça, en retail pur, je ne sais pas moi, on imagine au hasard, à côté d'un canal, entre un canal, une gare de triage et le parc du Palais-Royal, vous mettez un centre commercial dans un endroit quasiment inaccessible, à côté de l'endroit le plus embouteillé de Belgique, comment les gens vont y arriver? Et donc, à ce moment-là, jamais... en utilisant les transports en commun. Jamais. Et donc, pour revenir à la question, c'est une question vraiment fondamentale, c'est un choix de société. Est-ce que je fais du développement doux, j'essaye de développer un peu partout l'activité sans générer des grosses masses critiques commerciales? C'est jouable, mais alors, pensez, comment allez-vous utiliser, comment allez-vous développer les réseaux de circulation, comment allez-vous gérer la mobilité? Tout le monde doit se déplacer dans toutes les directions et principalement en voiture. vous ne saurez pas développer les transports en commun. Ou alors vous créez des zones de centralité, et là vous pouvez utiliser les transports en commun de façon plus facile. Voilà, mais c'est un vrai choix de société, et voilà. Pas simple.
Oui. Merci beaucoup. On va continuer le débat avec vous aussi après la deuxième intervention. Mais donc je vous invite au public de continuer à réfléchir. C'est une question aussi de où est-ce qu'on va placer les nouveaux développements. Donc, c'est une question d'urbanisme aussi, et aussi une question de contenu. En fait, à bien réfléchir, donc peut-être innover aussi à ce niveau et pas suivre les sentiers déjà battus.